Nous sommes aujourd'hui 5 novembre, journée très importante pour la politique américaine et l'impact que ça a à l'international. Parce qu'on s'entend que le président des États-Unis est appelé à collaborer avec tout le monde, tous les dirigeants partout dans le monde. C'est notre plus grand partenaire commercial ici au Canada et c'est notre voisin, mais tu sais... C'est sûr que ce qui se passe au sud de la frontière nous affecte aussi. Donc, quand il y a des élections aux États-Unis, ça intéresse les médias ici au Québec et on se penche sur la situation et on essaie de comprendre un peu ce qui va se passer dans les prochaines heures avec les Américains qui sont appelés aux urnes aujourd'hui à voter entre Kamala Harris qui tente d'aller chercher la présidence, quoique le président sortant est un démocrate. C'est Joe Biden qui finalement s'est retiré de la course. Et elle affronte l'ancien président Donald Trump, qui pourrait redevenir président aussi. Il est chroniqueur politique, analyse la politique américaine, enseignant également au cégep FX Garneau. Luc Laliberté, comment vas-tu?
Ça va particulièrement bien, mais je m'attends à être légèrement en manque de sommeil pour les 2 ou 3 prochains jours.
Parce que, Luc, écoute, j'imagine qu'une journée comme ça, pour toi qui analyse la politique, qui est un fan aussi à la base de politique américaine, c'est une journée très occupée, mais une journée très excitante aussi.
Ben, c'est pour une foule de raisons. D'abord, je suis profondément ancré au Québec, je suis profondément québécois. Mais cette histoire-là me fascine depuis que je suis tout jeune. Et c'est en lien avec l'élection de ce soir, cet attachement-là, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Américains, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Harris ou encore Trump, demain matin, après-demain matin, ça demeure notre premier partenaire au plan économique et ça demeure aussi notre premier partenaire sur la scène internationale. Donc, cette espèce d'engouement-là depuis que j'ai tout jeune, ben écoute, ça a fini par s'enrichir de connaissances, de compétences. J'enseigne cette histoire-là depuis un quart de siècle. Mais toute cette passion-là, c'est lié au fait que on a besoin d'États-Unis en santé, puis on a besoin d'États-Unis stables. Et une des choses qu'on craint par rapport à l'élection de ce soir, c'est justement, que va-t-il se passer, non seulement ce soir, mais demain et après-demain? Est-ce qu'on va toujours avoir un pays stable, un pays avec lequel on a envie de continuer à travailler? Et est-ce qu'on va avoir un pays qui est fiable pour nous, autant au plan économique que sur la scène internationale?
Parce que, puis, tu sais, évidemment, là, la crainte, les gens sont plus craintifs d'un retour de Trump que de Kamala Harris en général, bien qu'il y ait, bon, évidemment, des gens de tout horizon politique qui existent. Sauf que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gens sont craintifs de Trump. Puis d'un autre côté, ceux qui le défendent, on entend dire, c'est « ouais, mais il a été élu président en 2016 », puis tu sais, on a bien vécu ces 4 années-là quand même dans notre quotidien, nous, ici au Québec, ça n'a pas changé grand-chose, tu sais. Est-ce que ces gens-là ont raison de dire ça?
Plus ou moins, il faudrait nuancer. Je comprends, par exemple, il y a certains moments où à certains États aux États-Unis, si je vivais là, je considère que le gouvernement m'a oublié ou je considère que les démocrates me parlent peu. Je pourrais comprendre qu'on veuille voter républicain. Mais si on ne se met strictement que dans la peau d'un Canadien ou dans la peau d'un Québécois, en termes d'économie, en termes de négociation, de traité, Donald Trump a compliqué inutilement les choses. J'ai trouvé, par exemple, que Mme Freeland, qui gérait le dossier de la nouvelle entente économique, notre nouvelle mouture du traité de libre-échange, elle avait été d'une patience admirable parce que même les négociateurs américains autour de la table disaient « ça va bien, ça devrait avancer plus vite les dossiers. Notre problème, c'est le patron. » Le patron étant Donald Trump, c'est qu'il va crier, il va sur la place publique, il nuit aux négociations, il laisse parfois filtrer des informations qu'on ne voulait pas laisser aller. C'est le manque de discipline qu'on reproche parfois à Donald Trump. Eux devaient vivre avec, autour de la table, de négociations. Si c'est vrai, par exemple, que dans notre quotidien, au plan économique, on l'a plus ou moins senti, la présidence de Donald Trump, on risque de la sentir plus cette fois-là. Un président américain ou une présidente américaine, ces jours-ci, on va avoir des politiques protectionnistes. Ça va être vrai de Biden, ça va être vrai de Trump, mais ça va être vrai aussi de Harris, et c'est vrai présentement de Joe Biden. Mais celui qui se vante éventuellement d'avoir recours aux politiques tarifaires les plus élevées, donc ça nous pénaliserait, nous, pour certains produits dans certains secteurs, c'est Donald Trump. Et c'est un des aspects. Quand on regarde sur la scène internationale, avec qui pour le renseignement, avec qui pour le militaire, puis avec qui pour la diplomatie ou les négociations, par exemple, entourant les changements climatiques, on vient de sortir d'une COP sur la biodiversité, On s'entend beaucoup mieux avec Joe Biden ou on s'entendrait beaucoup mieux avec Kamala Harris dans notre vision de l'action internationale qu'on ne va le faire avec Donald Trump. Si on se fie à ce qu'il dit en campagne, il faut prendre les mots pour ce qu'ils sont, si on se fie à ce qu'il dit en campagne, pour le Canada, on se retrouve un peu isolé ou en tout cas privé ou coupé de notre plus gros partenaire. Et ça, on le voit pas toujours dans la vie de tous les jours, mais ça va revenir nous hanter. Si, par exemple, dans la guerre en Ukraine, Donald Trump met fin à ça, bien, attendons de voir ce que ça va provoquer. On a déjà vu ce conflit-là, ce que ça avait, par exemple, comme effet dans notre chaîne d'approvisionnement sur le taux d'inflation. Est-ce que l'approche de Donald Trump va nous aider, nous, comme Canadiens? On n'y pense pas toujours, hein, au conflit en Ukraine ou à ce qui se passe dans le Pacifique, mais éventuellement, on va le sentir. On va le sentir dans nos épiceries, on va le sentir dans nos courses, dans nos démarches pour se procurer des biens de consommation. Donc, il y a beaucoup en jeu sans qu'on sache toujours au quotidien ou qu'on saisisse la différence entre une administration de Joe Biden ou une administration de Donald Trump.
C'est certain que ça a un impact sur ce qui se passe ici. Luc Laliberté, analyste politique. Avant qu'on se lance dans le jeu des prévisions, parce que c'est extrêmement difficile, je veux quand même mentionner sur la course qu'on vit actuellement, c'est quand même particulier ce qu'on a vécu avec Donald Trump et Joe Biden qui ont eu un débat. Et après le débat, on s'est rendu compte du côté des démocrates, stratégiquement et même avec les capacités de Joe Biden, on se dit « OK, ce ne sera pas notre candidat pour la prochaine élection, ça va être Kamala Harris. » Et ce que je l'entends et ce que je lis actuellement, c'est... tu sais, Donald Trump, on a vu ce qu'il a fait dans sa dernière présidence. On s'attend à un Trump peut-être un peu plus radical, même selon ce qu'il dit pour une deuxième présidence advenant qu'il soit élu. Mais Kamala Harris, on la connaît peut-être un peu moins. Et son programme n'est pas nécessairement ce qu'elle met de l'avant le plus. Il y a beaucoup les célébrités qui sont arrivées, mais qu'est-ce qu'on sait de Kamala Harris actuellement? Est-ce que c'est vrai que le programme, on le connaît pas tant que ça?
C'est-à-dire que je suis plus ou moins d'accord avec l'affirmation. Ça a beaucoup été l'argumentaire du camp républicain. Et j'avoue que pendant un moment de la campagne, on entendait peu de choses. C'était vrai au début. Quand elle est arrivée, son premier mandat à Kamala Harris, c'était de mobiliser les troupes démocrates. Le moral était au plus bas, Joe Biden était derrière les sondages, dans les sondages, puis on craignait que les gens ne se déplacent pas pour Kamala Harris en grand nombre, que le vote soit un peu, tu me pardonneras l'anglicisme, un peu flat, hein, que ce soit un peu à plat comme motivation. Et ben ça, elle a réussi ça de manière brillante, je pense. Il n'y a pas eu de Kamala Mania dans le pays. Mais les démocrates ont repris de la vigueur, puis aujourd'hui, on constate, en tout cas dans le vote par anticipation, qu'on va voter avec enthousiasme. Mine de rien, c'était déjà un premier gros mandat. L'autre volet, ben, on l'a découvert peu à peu, c'est ensuite, une fois qu'on a terminé cette partie-là, puis qu'on l'entretient, la motivation des troupes, là, on devait aller de l'avant avec un programme. Et le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle a avancé des idées, mais son gros problème, c'est qu'elle ne veut pas se dissocier de ce qu'a fait Joe Biden. Le bilan de Joe Biden, objectivement, on pourrait discuter avec un économiste et je pense qu'il validerait, l'économie américaine va beaucoup mieux maintenant que lorsque Joe Biden est entré au pouvoir. Tout ça n'est pas attribuable juste à Joe Biden, mais les chiffres sont là. Donc, comment est-ce qu'elle peut dire « je vais être très différente de Joe Biden » en voulant pas sacrifier l'héritage? Parce que les politiques que Biden a mis en place, elle peut se les approprier et continuer en ce sens-là. Donc, il y a une partie de vrai. Au départ, c'est vrai qu'elle parlait plus de ses idées, mais quand elle s'est mise à parler de ses idées, on est resté relativement à la surface, entre autres parce que c'est à la fois un avantage et un boulet. Bien, elle est présentement à l'administration aux côtés de Joe Biden. Il y a des choses qui vont bien. Et c'est très difficile de vendre qu'on va être différente de ça, tout en sachant que ces politiques-là portent leurs fruits. Alors, c'est un peu pour elle un piège. En anglais, on appelle ça un catch-22 ou un damn if you do, damn if you don't. si elle parlait plus, ça pouvait provoquer un recul dans les sondages parce que trop associé à Joe Biden. Et si elle va pas assez loin, ben, ça ouvre la porte aux adversaires pour dire, ben, elle nous livre une word salad. Hein, c'est les opposants de Kamala Harris vont dire, c'est une salade de mots. Elle parle pour rien dire. Donc, elle est un peu coincée avec ça.
Dis-moi, Luc, tu l'as dit, ça fait un quart de siècle que tu enseignes la politique américaine et que tu commentes la politique américaine comme ça. Dans le passé, une élection, une course à la présidence comme ça, qui, j'ai l'impression qu'il a, on est tous un peu rivés vers les téléviseurs, tu sais, on est intéressés. Est-ce que tu as déjà vu une autre course à la présidence qui avait soit autant d'importance ou encore qui était excitante comme celle-là?
J'ai envie de te dire, les quatre derniers cycles électoraux, pour des raisons similaires ou différentes, revêtaient un caractère vraiment spécial. La première campagne que j'ai réellement couverte beaucoup dans les médias, je l'avais fait en classe avant ça, mais la campagne 2008, celle où Barack Obama est arrivé à peu près de nulle part et qu'il avait dû affronter une machine terrifiante, qui est la machine Clinton, qui était très forte au plan politique, quand il devance Hillary Clinton et qu'ensuite il s'impose devant McCain, il y avait le côté historique, mais il y avait le côté aussi, c'est très rare qu'on aime ses politiques ou pas, qu'on ait un politicien de la stature et du talent communicateur de Barack Obama. Donc, j'avais senti un engouement, mais c'était même exagéré. Quand je regardais la réaction de mes étudiants ou des gens, je me disais, attendez un peu, là, il marche pas sur les eaux, Barack Obama. Quand il va être élu, c'est un gros paquebot à tourner sur les États-Unis, puis il peut pas faire ça dans un mandat, ni dans deux mandats. Donc, je me disais, on a un peu gonflé la ballonne. C'est un talent réel, c'est un personnage inspirant, mais même si il était talentueux, il pouvait pas réaliser tout ce qu'on lui mettait sur les épaules. Sinon, les deux derniers cycles électoraux, ce qui me dérange un peu plus cette année, c'est la quantité de désinformation puis le niveau de hargne de certains discours. Mais la campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump et la campagne entre Joe Biden et Donald Trump, cette espèce de fossé entre certaines factions aux États-Unis, il existait déjà. Et on ne peut pas avoir de candidats plus différents que Donald Trump et les candidats démocrates qu'on voit présentement. S'il y a une chose qui est très, très claire ce soir, moi, j'ai plus de difficultés, ça s'explique, mais j'ai plus de difficultés avec un indécis ou un indépendant. Quand on voit à quel point, en termes de personnalité, de programme et de machine politique, on a des choix diamétralement opposés. Je vous disais tout à l'heure, je pourrais habiter certaines régions puis voter républicain. Je comprends qu'on puisse en arriver là, mais je comprends pas qu'on puisse hésiter. Il y a comme pas deux choix. Ils sont de mon bord ou ils sont pas. Donc, c'est fascinant. Mais je répète, comme prof et comme intervenant dans les médias, les deux choses qui me titillent le plus présentement, la quantité puis la qualité de la désinformation. Donc, c'est fou ce qu'on arrive à planter comme désinformation, puis c'est presque impossible dans les médias ou dans une salle de classe de lutter contre tout ça en même temps. L'intelligence artificielle commence aussi à faire des ravages de ce côté-là. Puis l'autre chose, ben, on dépasse la simple partisanerie politique parce que de plus en plus, on a une rhétorique violente. Et je pense pas qu'on va avoir une guerre civile. Il y en a qui évoquent ça. Mais c'est difficile d'imaginer ces gens-là travailler ensemble maintenant et tirer dans le même sens.
Ouais.
Les États-Unis, hein, je dis souvent, le qualificatif qui colle le moins bien, c'est unis. Ils n'ont jamais été totalement unis, les États-Unis. Mais ils ont rarement été aussi désunis qu'ils le sont présentement.
Et la course, c'est extrêmement difficile. En fait, moi, je te suis sur les réseaux sociaux, Luc, et d'un sondage à l'autre, d'une source à l'autre, certains mettent Trump gagnant, certains mettent Kamala Harris gagnante. Est-ce qu'on va avoir une réponse ce soir? Non, mais c'est parce que c'est ça. C'est même pas savoir qui va gagner. Ça risque de pas se décider ce soir.
On sait si le Canadien va gagner avant la présidentielle américaine.
Ça, c'est sûr.
Je pense que ça, on peut parier, mais on parierait tous qu'on va avoir le résultat du match de hockey. La course, elle est... Allons-y de deux façons particulières. Les tendances de la fin, ce qu'on regarde dans les derniers jours, le ton des discours, mais surtout la mobilisation des électeurs, il y a quand même un petit plus pour Kamala Harris. Si j'avais un pari à faire, ça m'arrive parfois de m'amuser à faire ça, j'irais pour Harris ce soir parce que il semble y avoir une mobilisation. Et les sondages ne nous apprennent plus rien depuis 10 jours, 2 semaines à peu près. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire que c'est au coude à coude. C'est un peu du côté de Trump, un peu du côté de Harris, mais c'est une égalité statistique. Dans ce temps-là, on fait quoi? On va un peu vers le feeling puis vers l'expérience. Puis habituellement, quand il y a un petit momentum à la fin, là, quand on sent qu'il y a une petite poussée, c'est ça qui finit par emporter le vote. À quelle heure va-t-on avoir le résultat? C'est en lien avec ce que je viens de dire. Il y a des bureaux de vote sur la côte Est qui vont fermer plus tôt. Il y en a en Géorgie ou en Caroline du Nord qui déjà à 19h ce soir vont être fermés. Donc, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est que s'il y a déjà, imaginons, une poussée Harris en Caroline du Nord et en Géorgie, ça veut dire qu'on pourrait apprendre des nouvelles dans la soirée. Jean-Marc Léger, avec qui on collabore au Journal de Québec, Journal de Montréal, lui pense, il disait ça aujourd'hui, qu'on va avoir les résultats avant minuit, qu'on va avoir les résultats dans la soirée. Donc, si jamais ça se produit, c'est que l'espèce de petite vague que je pense voir actuellement en mobilisation, ben ça se poursuit. Sinon, ben après ça, votre guess ou votre pari ben, est équivalent au mien, c'est qu'à partir du moment où on arrive en Pennsylvanie, où je pense qu'on est les champions du dépouillement lent du vote. Si ça demeure très serré au Wisconsin et au Michigan, ben là, il va falloir attendre les résultats de l'Ouest, le Nevada ou l'Arizona. Et ça, ça sort plus tard en raison du décalage horaire. Mais c'est aussi des dépouillements, très longs. Et là, on peut s'embarquer dans une journée, deux journées. En 2020, ça a pris 4 jours. Donc, on est peut-être dans ces eaux-là si, avant d'aller se coucher ce soir, on n'a pas déjà une bonne idée de la tendance.
Luc Laliberté, chroniqueur politique, professeur également d'histoire. C'est toujours passionnant de t'entendre parler de politique américaine. On s'installe pour une longue soirée.
C'est l'heure de la sieste, Luc.
Oui, c'est ça. Si tu peux faire une petite sieste avant ce soir, là, on te le souhaite.
Allez, je vous souhaite une bonne fin d'émission, une bonne soirée à tout le monde, puis au plaisir.
Merci.
Luc Laliberté, toujours, oui, un plaisir de lui parler de politique américaine. J'ai hâte de voir. Mais mettons, avant minuit, ça ferait mon affaire. Qu'on ait une réponse personnellement. Sinon, ça peut s'échelonner sur quelques jours. Vous n'êtes jamais loin de